Merci d'écouter RFI. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
Anne Cantner.
Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure. En Haïti d'abord, où le nouveau chef de la police annonce les premières opérations communes entre la PNH et les policiers kényans de la force multinationale. Nous reviendrons aussi sur ces déclarations avec notre correspondante à Port-au-Prince d'une part et puis avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On parlera également du sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui à Washington avec des dirigeants en désaccord sur la guerre en Ukraine et à l'invité d'un Joe Biden fragilisé aux États-Unis. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour, avec vous, Alex Léveillé, nous irons en Guyane et en Guadeloupe.
Et oui, pour évoquer le lancement de la première Ariane 6 aujourd'hui en Guyane et la présence d'un barracuda dans les eaux de Sainte-Anne en Guadeloupe.
À tout à l'heure, on vous appelle dans une vingtaine de minutes. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de Charlotte Hydrac.
RFI Midi.
Charlotte, la France est toujours à la recherche d'une majorité à l'Assemblée nationale après les législatives.
Oui, c'est encore le brouillard. À gauche, l'alliance du nouveau Front populaire arrivée en tête revendique le poste de Premier ministre. Reste à savoir qui, de quel parti il ou elle serait issu. Le camp présidentiel, lui, plaide pour une large coalition, centrale, raisonnable, responsable. Ce sont les termes employés, coalition qui irait des socialistes aux républicains. Quant au Rassemblement national, il tire les leçons de l'échec du plan Matignon. Le directeur général du parti a démissionné. Et puis, autre déboire, Marine Le Pen est visée par une enquête pour des soupçons de financement illégal pour sa campagne présidentielle de 2022. L'Assemblée, en tout cas, continue d'accueillir les députés. Aujourd'hui, il y a 577 élus au total et seulement un peu plus de 200 femmes, soit 36% des sièges. C'est un chiffre en baisse par rapport aux précédentes législatures, Marius Roland.
Elles étaient 224 en 2017, 215 en 2022, elles sont aujourd'hui 208. Depuis trois scrutins législatifs, le nombre de femmes dans l'hémicycle est en baisse. De fait, la parité n'a jamais été respectée depuis son obligation il y a 25 ans et les élections anticipées cette année ont davantage creusé l'écart. Pour Mariette Sino, politologue au CNRS, les femmes avaient encore moins la priorité dans cette campagne éclair.
Les femmes ont été victimes de cette urgence dans la mesure où les partis politiques ont dû préparer leur sélection dans la précipitation et la parité n'a probablement pas été au premier rang de leurs préoccupations.
Selon elle, les groupes politiques se dédouanent en investissant surtout des femmes dans des circonscriptions perdues d'avance pour prétendre se rapprocher de l'équilibre et payer le moins de pénalités. Laurence Rossignol, ex-ministre des droits des femmes, fustige elle aussi ce traitement de défaveur.
Un parti politique préfère renouveler ses sortants, conserver le pouvoir au sein de la formation politique. En ce qui concerne par exemple les Républicains, ce sont beaucoup d'hommes qui organisent la vie du parti politique.
Parmi les grandes forces politiques, le groupe LR est le plus mauvais élève, avec seulement 30% de femmes dans ses rangs.
Marius Roland, journée de deuil à Kiev, en Ukraine, et cela au lendemain des frappes russes qui ont fait plus de 30 morts, qui ont notamment visé un hôpital pour enfants le plus grand du pays. Les recherches se poursuivent dans les décombres. Selon l'ONU, il est fort probable, je cite, que l'hôpital ait été touché par un tir direct de missiles russes. Une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies est prévue aujourd'hui à la demande du président ukrainien.
Volodymyr Zelensky, invité du sommet de l'OTAN qui va s'ouvrir à Washington.
La guerre en Ukraine sera cette année encore l'un des principaux enjeux de ce 75e sommet. C'est ce que souligne Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales.
Il y a d'abord l'enjeu immédiat qui est celui évidemment de l'alliance au chevet de l'Ukraine. L'Ukraine qui n'aura vraisemblablement pas d'invitation à nouveau à l'adhésion, mais qui devrait partir avec un certain nombre d'annonces en termes de soutien matériel et de structuration de l'aide. Le second dossier, c'est l'identité de l'Alliance elle-même, peut-être avec la perspective des élections américaines et la question du lien transatlantique, avec le fantôme ou en tout cas le spectre d'un Donald Trump qui semble moins attaché que jamais à cet esprit de la solidarité comme il a pu le laisser entendre.
Voilà, Elie Tenenbaum, joint par Franck Alexandre, l'élection américaine de novembre en toile de fond. fond donc de ce sommet. Joe Biden est sous pression, y compris au sein de son camp qui s'inquiète de son état de santé, de sa capacité à mener campagne. Mais l'intéressé n'a pas du tout l'intention de jeter l'éponge. Dans une lettre aux parlementaires démocrates, Joe Biden, 81 ans, se dit décidé à rester dans la course et tente de faire oublier son débat télévisé raté face à Donald Trump. C'était le 27 juin dernier. Le candidat républicain, Donald Trump, donc, a donné ses impressions sur ce débat sur la chaîne de télévision Fox News, de façon plus sobre qu'à son habitude, Abla Jonaedi.
Donald Trump est loin d'avoir brillé lors du débat sur le plateau de CNN le 27 juin dernier. Mais ce que l'histoire retiendra, c'est bien le spectacle d'un Joe Biden blafard, hésitant. Son adversaire républicain livre à Sean Hannity de Fox News ses impressions.
Quand il a commencé à parler, je ne sais pas, sa voix était faible. C'était une soirée étrange, un débat bizarre. Au bout de quelques minutes, les réponses qu'il donnait ne voulaient pas dire grand-chose.
L'ancien président ne va pas jusqu'à évoquer les soupçons de maladie de Parkinson de Joe Biden qui font les choux gras de la presse. Mais fidèle à ses sarcasmes, il explique pourquoi, selon lui, rien ne devrait changer du côté du camp du président démocrate.
Il me semble qu'il pourrait tout à fait rester. Il a un certain ego et il ne veut pas démissionner. Il me semble simplement que c'est ce qu'il veut. Et son épouse Jill aussi, elle prend du bon temps.
Jill Biden et son entourage continuent en effet de soutenir le maintien de la candidature de l'actuel président. Si néanmoins il était contraint de démissionner, Donald Trump envisage Kamala Harris pour le remplacer. Pour le pire, selon lui, tant elle est, je cite, « une personne inefficace ».
Une bonne nouvelle pour la planète à présent. Et on en a besoin. Le taux de déforestation est en baisse en Colombie.
Moins 36% entre 2022 et 2023, selon les chiffres officiels publiés hier. C'est le taux de déforestation le plus bas dans le pays depuis 23 ans. Et c'est le résultat d'un plan ambitieux mis en place par le gouvernement de gauche, de Gustavo Petro. Mais rien n'est encore gagné, Jeanne Richard.
Non, la déforestation en Colombie poursuit certes sa baisse. En 3 ans, elle a chuté de plus de moitié dans ce pays d'Amérique latine, recouvert en partie par la forêt amazonienne. Et c'est au-delà de l'objectif que s'étaient fixé les autorités. Le gouvernement Petro a en effet lancé le plan Conserver sa paye, auquel ont déjà adhéré des milliers de familles et qui vise à inciter les populations locales à préserver les forêts en échange d'une somme d'argent jusqu'à $200 par mois et par famille. Toutefois, ce n'est pas encore suffisant. L'augmentation de l'élevage et le besoin en nouvelles prairies et les activités illégales comme l'exploitation minière ou la culture de la coca grignote toujours la forêt. Le déboisement a également été mis sur la table des négociations du processus de paix avec les groupes armés qui ont repris le contrôle de vastes zones depuis la fin de la guérilla des FARC. Lorsque les discussions se passent bien, ces groupes ont tendance à montrer leur bonne volonté et coupent moins de forêts. Mais lorsque les négociations patinent, la déforestation reprend. C'est d'ailleurs le cas depuis ce début d'année.
Jeanne Richard et le gouvernement de Gustavo Petro, retour en France, bientôt des taxis volants dans le ciel de Paris. Le gouvernement a donné son feu vert à titre expérimental au vol de ces aéronefs électriques pour des démonstrations durant les Jeux Olympiques. Ses promoteurs présentent ces taxis volants comme plus petits, moins lourds, moins bruyants que des hélicoptères. Ils pourraient être utilisés à terme pour du transport sanitaire d'urgence, par exemple, mais à la mairie de Paris, de nombreux élus contestent ce projet qualifié d'aberration écologique. Et il compte donc contester l'arrêté d'autorisation.
C'était le journal de Charlotte Hydrac. Il est 15h09 ici à Paris. RFI midi suite et fin. Nous irons aux États-Unis, au Guatemala et en Haïti d'abord.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La récréation est terminée. C'est l'avertissement lancé hier par le nouveau chef de la police en Haïti. Ramon Ormil a tenu sa première conférence de presse après l'enlèvement au cours du week-end de plusieurs personnes. Et il a annoncé que les opérations conjointes avec les policiers kényans commenceraient bientôt contre les gangs, qu'elles pouvaient désormais intervenir à tout moment. À Port-au-Prince, Marie-André Bélange.
L'accalmie aura été de courte durée. Les bandits armés ont recommencé à kidnapper des gens et notamment un entrepreneur. Le directeur général de la police nationale haïtienne, Ramon Ormil, promet des actions pour rétablir la paix et la sécurité.
Les opérations contre les gangs armés peuvent être lancées à tout moment. La population se réveillera un matin et entendra que des bandits ont été neutralisés. Pour des raisons stratégiques, on ne va pas annoncer la façon dont on va procéder.
La police ne sera pas seule sur le terrain. Elle sera accompagnée par des policiers kenyans déjà sur place. Le Kenya compte bien mener sa mission, a assuré le commandant des policiers kenyans déployés en Haïti dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité Godfrey Utonge.
Il n'y a aucune possibilité d'échec dans notre mission. On a pris des dispositions pour permettre à Haïti de se diriger vers un état de droit et retrouver la paix.
D'ici là, la police nationale haïtienne a repris le contrôle de l'hôpital public de la capitale qui était pris en otage par des bandits depuis les assauts des bandes armées en février dernier. Marie-André Bélange, Port-au-Prince, RFI.
Et la presse haïtienne revient bien sûr sur ces déclarations du nouveau chef de la police, notamment Alter Press. Et nous sommes en ligne avec son directeur. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
Première conférence de presse donc, et c'est aussi la première fois que la PNH haïtienne, que la PNH, annonce des opérations communes avec les policiers kenyans de la mission multinationale.
L'annonce a été faite, comme on vient de l'entendre, suite à 2 semaines d'évaluation et de planification. C'est accompagné du général Godfrey Utonge, chef de la mission multinationale d'appui à la sécurité, que Ramon Ormil a averti que les opérations visant à démanteler les gangs armés dans leur fief seront lancées donc à tout moment. On peut lire ces déclarations et les écouter sur notre site. Il précise que la police a donc repris un point important de la capitale. C'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui était utilisé, précise-t-il, par les gangs armés pour effectuer des attaques sur le Palais national et d'autres bâtiments.
Et lors de cette conférence de presse, Ramon Ormil a parlé de ses priorités. Il a évoqué 7 communes et il a cité Gressier, où les gangs ont été particulièrement violents récemment.
7 communes dont il n'a pas précisé les noms, des communes qui n'ont plus de policiers depuis 2 ans. C'est ce que déplore Ramon Ormil, soulignant combien cette situation favorise l'action criminelle des gangs armés. Et sur Gressier, il a fait savoir que pour la première fois la semaine dernière, la police est parvenue à saisir, grâce à l'opération d'un task force, un tracteur utilisé par les bandits pour démolir les commissariats et sous-commissariats de la police. Le directeur de la police informe avoir pris des dispositions pour permettre à tous les policiers de revenir dans leur poste, comme à des milliers de personnes déplacées de retourner chez eux.
Et puis Godson, on peut lire sur Alter Press aujourd'hui un article sur la visite aux États-Unis du Premier ministre de transition. On a déjà parlé ici de la polémique sur la méthode, mais le coût du voyage fait également débat.
C'est une plateforme d'organisation de la société civile Ensemble contre la corruption qui remet le sujet dans l'actualité. Elle encourage Gary Conille à donner le bon exemple en rendant compte des dépenses encourues par l'État pour son séjour aux États-Unis du vendredi 28 juin au samedi 6 juillet dernier, ce qui n'est pas, il faut le reconnaître, dans les habitudes étatiques ici. ECC se dit convaincu que le statut de haut fonctionnaire international du Premier ministre, ancien haut responsable onusien, l'habilitera à imprimer cet élément nouveau dans les pratiques des gouvernants haïtiens.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouve mardi prochain et d'ici là, on peut vous lire sur alterpress.org.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On va continuer à feuilleter les journaux du continent. La revue de presse de Marine Le Bègue aux États-Unis d'abord, où les membres de l'OTAN se retrouvent tout à l'heure pour marquer les 75 ans de l'Alliance Atlantique. Et pour le Washington Post, la crise politique, les doutes qui persistent sur l'état de santé de Joe Biden et qui se font entendre de plus en plus chez les démocrates, tout ceci n'est pas sans incidence.
Oui, référence Anne à la douloureuse campagne de Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre. Depuis son débat catastrophique, le président est sommé de toutes parts de renoncer. Or, il se trouve que l'OTAN occupe au contraire une place importante dans l'argumentaire de Joe Biden pour rester dans la course, souligne le Washington Post. Et si le président se vante à juste titre de la revitalisation de l'OTAN, de la façon dont il a mobilisé l'Occident pour soutenir l'Ukraine, le Washington Post redoute que cette obstination à poursuivre sa campagne ne compromette ses succès de politique étrangère et donne l'avantage à Donald Trump. Donald Trump qui a à peine haussé les épaules lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis resteraient dans l'OTAN s'il gagnait.
On reste aux États-Unis, Marine, où l'ouragan Beryl a causé des dégâts très importants. On en parlait dès hier, le Texas est l'état le plus touché. On entend ici les bourrasques de vent très fortes. 7 personnes ont trouvé la mort dans la région de Houston. 3 millions de foyers sont privés de courant et selon la presse locale, Marine, l'électricité ne devrait pas revenir avant plusieurs jours.
Oui, en cause, les arbres déracinés ou les poteaux électriques abattus par le vent. Plusieurs distributeurs d'électricité de la région tentent de rétablir le courant, nous apprend le Houston Chronicle. Mais ce n'est pas entièrement fait et ce ne sera pas fait avant plusieurs jours au vu des dégâts. Ces dégâts, on peut les observer sur le site web du journal local. La moitié d'une maison arrachée, des balcons envolés, des palmiers pliés sous les rafales, les rues transformées en fleuves et la photo de l'une des victimes de Beryl tuée par un arbre tombé sur sa maison. Le Houston Chronicle se fait aussi le relais de l'Agence nationale de météo. Une vague de chaleur doit toucher le Texas aujourd'hui avec plus de 40 degrés Celsius attendus et même si ce n'est pas une température record, l'humidité laissée par la pluie risque d'accentuer le ressenti de chaleur et l'absence d'électricité et de climatisation notamment pourrait provoquer des conditions dangereuses, prévient le journal.
On va maintenant prendre la direction de l'Argentine, Marine, où une photo fait la une des journaux.
Oui, celle de Javier Milei, le président ultralibéral, entouré de 18 gouverneurs signataires du pacte de mai. Un programme pour faire avancer l'Argentine, décliné en 10 points. On y retrouve pêle-mêle l'inviolabilité de la propriété privée, la réduction des dépenses publiques, une réforme du travail ou encore une ouverture au commerce international. Après des mois de négociations acharnées, Javier Milei a enfin réussi à obtenir la photo qu'il voulait, affirme La Nation, qui publie la cliché en une. Sur deux rangées s'alignent les signataires et au milieu, Javier Milei, écharpe et bâton présidentiel en main. Mais certains brillent par leur absence, note le journal. 5 gouverneurs de l'opposition critiquent du contenu de ce paquet, mais aussi les 4 membres de la Cour suprême, les dirigeants syndicaux et les représentants de l'Église qui n'ont pas voulu adhérer au pacte de mai.
Et Javier Milei avait misé sur les symboles. La mise en scène était très travaillée, Marine.
Oui, la photo a été prise à minuit le 9 juillet, jour de la fête nationale, dans la maison de Tucumán, lieu où a justement été signée la déclaration d'indépendance du pays en 1816, remarque El País. La tentative de Javier Milei d'imiter les héros de l'indépendance était évidente, note le journal.
Et pourtant, El País relève que ce pacte de mai a été signé en juillet.
Oui, ce retard a été causé par une condition imposée par Javier Milei, valider la loi Omnibus, un paquet de mesures qui accorde plus de pouvoir législatif au président, permet la privatisation d'entreprises publiques et assouplit le régime du travail, notamment, rappelle le journal. Mais ce paquet proposé en mars n'a été validé qu'en juin, retardant tout le processus. C'est donc après des mois de négociations qu'a été signé le pacte de mai pour rompre avec les antinomies du passé et faire à nouveau de l'Argentine un protagoniste du marché mondial, détaille La Nation en citant le président.
13h18 en temps universel. L'actualité du continent américain, c'est aussi cette condamnation au Guatemala. 5 ans de prison pour l'ancienne procureure anticorruption Virginia Lapara. Elle a été jugée coupable d'avoir révélé des informations confidentielles. La justice lui laisse seulement la possibilité de convertir cette peine en amende, assortie d'une assignation à résidence. Et c'est une condamnation injuste, selon Amnesty International. Écoutez sa directrice pour les Amériques, Ana Piquer.
Le procès n'a pas respecté la procédure légale. C'est un autre exemple de la persécution politiquement motivée, mise en place par le pouvoir judiciaire et le ministère public à l'encontre de ceux qui luttent contre l'impunité et la corruption au Guatemala. Amnesty International a beaucoup documenté cette affaire. Pour nous, c'est une décision mitigée. Nous nous félicitons du fait que Virginia ne doive pas retourner en prison, mais nous regrettons qu'elle ait été condamnée alors que la seule chose qu'elle a faite était d'exercer ses fonctions de procureur anticorruption. Nous continuerons à veiller à ce que toutes les charges retenues contre elle soient levées et qu'elle jouisse d'une totale liberté.
Voilà la directrice pour les Amériques d'Amnesty International. Il s'agit de la 2e condamnation contre Virginia Lapara. Après qu'elle a été condamnée à 4 ans de prison en 2022 dans une autre procédure très controversée également. Elle a été accusée d'avoir dénoncé un juge sans avoir l'autorité pour le faire. On vous retrouve Marine Le Bègue pour feuilleter les journaux du continent. Nous sommes au Brésil où l'étau judiciaire se resserre autour de Jair Bolsonaro.
Oui Anne, l'ancien président est dans la tourmente judiciaire, soupçonné d'avoir profité d'un système de vente illégale de bijoux et d'articles de luxe, dont la plupart offerts pendant son mandat par l'Arabie Saoudite. La police fédérale a recommandé la semaine dernière déjà l'inculpation de l'ex-président pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et détournement de fonds. Et hier, Anne, les conclusions de l'enquête ont été publiées. On y apprend que Jair Bolsonaro aurait tenté de s'approprier les bénéfices de la vente desdits bijoux, partis pour certains aux enchères aux États-Unis, afin de couvrir ses dépenses et celles de sa famille. On parle de plus de $1 million. Or, ces cadeaux faisaient partie de la collection publique brésilienne, précise la Folha de Sao Paulo. Et Jair Bolsonaro a utilisé cet argent pour ses dépenses quotidiennes, l'un des moyens les plus courants pour réintégrer l'argent sale dans l'économie, explique Au Globo. Le bureau du procureur général a désormais 15 jours pour demander plus de preuves, classer l'affaire sans suite ou bien déposer une plainte, nous apprend la Folha de Sao Paulo.
La revue de presse de Marine Le Bagar, trouvée sur internet rfi.fr.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Notre dossier du jour à présent, une plongée dans les mines d'or illégales de la forêt amazonienne dont les conséquences sont catastrophiques. Violence, prostitution, sida, alcool, drogue, auxquelles il faut ajouter des conséquences environnementales. Dans la région de Madre de Dios au Pérou, les rivières, les poissons et donc ceux qui les mangent sont contaminés par le mercure qui est utilisé pour extraire l'or. Raphaël Morand a pu joindre une vétérinaire, Claudia Vega. Elle coordonne le programme de lutte contre le mercure au Centre d'innovation scientifique amazonien.
Le mercure est une herramienta que usa la minería artesanal para extraire el oro.
Le mercure est utilisé par les mineurs artisanaux pour extraire l'or. Quand le mineur a récupéré le substrat, c'est-à-dire les sédiments qui contiennent la poussière d'or, il y ajoute du mercure. Le mercure s'accroche à l'or, cela forme ce qu'on appelle un amalgame qu'on extrait, puis on chauffe cet amalgame, le mercure s'évapore et il reste l'or. Et ce processus d'extraction peut polluer l'air et les rivières. Nous avons étudié les niveaux de mercure dans les oiseaux, les chauves-souris, le sol, les roches, l'air, pour comparé, nous avons prélevé des échantillons dans des zones d'activité minière et dans des zones où il n'y a pas d'activité minière, car naturellement, du mercure, il y en a dans l'environnement. Et nous avons constaté que dans les zones minières, la concentration en mercure, elle augmente significativement dans les poissons, dans l'air, dans les oiseaux et dans les chauves-souris. Elle peut être 2 à 5 fois supérieure. Les martins pêcheurs sont particulièrement touchés parce que ces oiseaux se nourrissent de poissons.
Le mercure arrive jusque dans leurs organismes parce qu'ils mangent des poissons, des rivières, c'est ça ?
Le mercure sous forme de cristaux, c'est celui qui est utilisé par les mineurs, lorsqu'il entre dans l'eau, il se transforme en méthylmercure. Ce méthylmercure est très toxique et il entre dans la chaîne alimentaire aquatique. Cela peut entraîner de très fortes concentrations de mercure dans les poissons et surtout chez les prédateurs. À chaque fois qu'un animal mange un autre animal, la concentration en mercure s'accumule. Donc les espèces qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, les prédateurs, récupèrent tout le mercure. Nous, les humains, nous sommes des prédateurs. Donc l'être humain, en fonction de ce qu'il mange, peut aussi concentrer ce mercure.
Quels sont les effets de cette forte présence de mercure sur la santé des animaux ?
Nous avons démarré une étude sur ces effets, mais nous n'avons pas encore les résultats. Malheureusement, il y a peu d'études scientifiques sur les effets du mercure dans l'hémisphère sud, et encore moins dans les tropiques. La plupart de ces études sont faites dans l'hémisphère nord. Alors nous les utilisons comme référence et les niveaux de mercure que nous avons constatés nous laissent penser qu'il pourrait y avoir un impact négatif sur le taux de reproduction des animaux, jusqu'à moins 40%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les populations de certains oiseaux pourraient se réduire, surtout celles des oiseaux qui mangent des poissons et des insectes, car ce sont eux qui concentrent le plus de mercure.
La population amazonienne se nourrit principalement de poissons des rivières. Quel est l'impact de la pollution au mercure sur la santé des êtres humains ?
Au Pérou, seules quelques études ont été faites, notamment ici à Madre de Dios. On voit que cela peut réduire la réponse immunologique, réduire la capacité d'apprentissage des habitants, et les plus affectés, ce sont les communautés autochtones. D'après l'Agence de l'ONU pour l'alimentation, les populations indigènes de l'Amazonie sont celles qui consomment le plus de poissons par personne au monde. Elles peuvent manger de 200 à 400 grammes de poissons par jour. Donc tout ce qui arrive à ces poissons, eh bien, cela affecte ces populations.
Alors, il existe des techniques d'extraction de l'or sans utilisation de mercure. Votre organisation les promeut d'ailleurs auprès des mineurs de la région de Madre de Dios. Est-ce que c'est une solution ? Beaucoup de gens dépendent de l'activité minière pour vivre.
Certains des mineurs de Madre de Dios utilisent des techniques sans mercure. Ils utilisent des tables gravimétriques. Là, la séparation de l'or se fait par la gravité et c'est assez efficace. Il faut avoir en tête que l'activité minière fait vivre beaucoup de gens ici. Donc pour nous, il faut chercher à rendre cette activité plus responsable, moins polluante. Car en fin de compte, nous consommons tous de l'or, par exemple dans nos téléphones portables. Il faut donc chercher à rendre l'extraction de l'or plus respectueuse de l'environnement, notamment grâce aux techniques sans mercure, mais aussi envisager de fermer certaines mines et de restaurer les zones déforestées.
Claudia Verga, qui coordonne le programme de lutte contre le mercure au Centre d'innovation scientifique amazonien, elle répondait à Raphaël Morand.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer à présent. Et on vous retrouve, Alex Léveillé, pour parler d'abord de la fusée Ariane 6. Elle doit décoller aujourd'hui de la base spatiale de Kourou, en Guyane, avec 4 années de retard.
Et oui, le compte à rebours final est donc lancé. La fusée Ariane 6 doit s'élever pour la première fois et avec elle, les espoirs pour l'Europe de retrouver un accès autonome à l'espace. Les enjeux de ce lancement avec Jean-Gilles Assard de Guyane, la première.
Les enjeux sont importants. D'ailleurs, c'est l'impatience qui domine. Voilà 4 ans que l'Europe spatiale attend de voir décoller Ariane 6. Elle a été retardée pour des raisons techniques de mise au point, mais aussi par la pandémie. Souvenez-vous, ce vol inaugural devrait donc enfin se réaliser aujourd'hui à 15h. Il a fallu un peu moins de 12 ans pour définir, construire et mettre au point le remplaçant d'Ariane 5. Plus de 900 personnes sont mobilisées non seulement ici en Guyane, mais à travers l'Europe pour ce premier lancement. Depuis le départ des Russes, les déboires de Vega et la fin de carrière d'Ariane 5 l'an dernier, voilà près d'un an donc que l'Europe est clouée au sol. Elle ne peut pas demeurer plus longtemps sans un accès indépendant à l'espace. À Kourou, tous les essais ont été concluants, ils ont été faits et refaits afin de chasser définitivement l'image de l'échec du vol inaugural d'Ariane 5 en juin 1996. Donc au fil des heures, la pression va monter jusqu'au décollage. Tous les acteurs n'attendent qu'une chose, entendre le DDO, le directeur des opérations, annoncer le succès de ce vol historique.
Et le décollage d'Ariane 6 à Kourou en Guyane est prévu à 20h, heure de Paris. En Guadeloupe, au moins un barracuda rôde dans les eaux saint-anaises et leurs alentours. Samedi dernier, un spécimen a mordu un baigneur. La municipalité souhaite, en collaboration avec les affaires maritimes, prévenir tout nouvel incident. Le maire de Sainte-Anne, Franck Baptiste.
Il faut que j'ai contact avec les affaires maritimes. C'est un site formidable. Bien évidemment, la prudence. Les baigneurs ne doivent pas aller se baigner avec des bijoux, hein, surtout les bijoux en argent. Ça brille, ça attire. Il semblerait quand même que ce n'est pas uniquement à Sainte-Anne, hein, c'est la Guadeloupe, mais sur un peu plus haut, au sud de cette plage, il semblerait qu'il y a des reproductions et que donc, ça se balade par là. Mais simplement, avec les affaires maritimes, on prendra des mesures de sécurité pour signaler aux baigneurs de faire quand même attention pour, je passe tous ces brassons-là.
Voilà, c'était le maire de Sainte-Anne, Franck Baptiste. Il était au micro de Patrice Gonfier de Guadeloupe la Première. C'est la fin de cette édition. Merci à Bruno Dessomme pour la mise en onde. Excellente fin de journée à tous.
Et merci Alex Leveillé. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée ce mardi par Yann Eligouin. Je vous donne rendez-vous demain, 11h, temps universel. Mais vous restez sur RFI. Dans une minute maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou. Et de vive voix, Pascal Paradou reçoit aujourd'hui les comédiens Elsa Lepoivre et Loïc Corbery de la Comédie Française pour parler de la pièce « Écube, pas Écube » de Thiago Rodriguez, l'adaptation d'une tragédie grecque pour parler du handicap. Très bonne journée à tous.
RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM.
RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement, lance l'édition 2024 du concours vidéo Hip-Hop.
Prenez vos smartphones et captez le ressenti des femmes et des hommes qui affrontent les conséquences des changements environnementaux et climatiques dans leur localité. Participez aux formations en ligne et envoyez vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour tenter de gagner des bourses de production et des diffusions dans de grands festivals européens. À vous de jouer, on est toujours ensemble avec Hip-Hop.